c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, cela peut vous sembler incroyable, mais jusqu'ici, aucun inventaire global de la flore africaine n'avait été fait. Pourtant, c'est l'une des plus riches et des plus contrastées du monde. Mais rassurez-vous, c'est fait et nous allons tout vous détailler dans la deuxième partie de l'émission. Car quand on connaît, on apprend à aimer et quand on aime, on protège mieux. Enfin, dans l'idéal, ce que nous allons vous faire découvrir d'ailleurs dans un instant est proche de l'idéal, une gestion durable d'un morceau des fantastiques forêts du bassin du Congo. Reportage. Nous sommes dans le sud-est du Gabon, entre Lastourzville, Okandja et Franceville, dans la concession forestière d'aménagement durable de la CEB, la compagnie équatoriale des bois du groupe Precious Woods. 600 000 hectares de forêt gérés durablement. Alors nous allons voir comment ça marche avec vous, Alain Carsanti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur économiste spécialiste des forêts au CIRAD. Alors pourquoi est-ce que c'est important de gérer durablement une forêt pour un pays ?
Bien parce qu'une forêt, c'est une ressource renouvelable. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde, on le voit dans la transition énergétique mondiale et dans toutes les transitions, nous sommes dans une phase de l'humanité où nous allons de plus en plus se compter sur des énergies renouvelables. Le pétrole va s'épuiser, le charbon va s'épuiser. La forêt, c'est une ressource vivante. C'est quelque chose qui peut apporter à la fois de l'emploi, des services à des générations de personnes. Aujourd'hui, alors que les forêts sont aujourd'hui en train de se raréfier à l'échelle mondiale, le Gabon a une chance inestimable, c'est qu'il a une des plus belles forêts du monde. Elle est préservée et probablement ce sera un atout absolument formidable dans l'avenir du point de vue économique et du point de vue touristique et autres.
C'est vrai que le Gabon est un pays qui a un couvert forestier de 85%, c'est énorme, c'est à peu près 22 millions d'hectares de forêt. Alors vous disiez, la forêt apporte de nombreux services, c'est pour ça qu'il faut la préserver. Quel type de service ?
Alors il y a des services globaux et des services locaux. Le premier service global que l'on connaît, c'est le fait d'être un réservoir de carbone. C'est également d'abriter une biodiversité qui est l'assurance vie de l'humanité. La forêt, ça permet d'avoir de l'évapotranspiration, des pluies, ce qui effectivement va permettre de ce point de vue d'assurer la sécurité du point de vue de l'approvisionnement en eau de la région, du pays. Et puis, ce sont toutes les ressources que les populations tirent de la forêt, des ressources de chasse, des ressources pharmaceutiques, parce qu'on se soigne avec les écorces, avec les produits forestiers non ligneux. Et puis, bien sûr, il y a le bois, il y a l'industrie du bois, des bois précieux. Et de ce point de vue, c'est une industrie qui a un potentiel énorme et probablement le Gabon pourrait en bénéficier encore beaucoup plus qu'aujourd'hui avec le progrès technique, avec l'organisation.
Alors ici, on est dans une concession certifiée, c'est le label FSC. Donc quand on est en Europe, par exemple, et qu'on achète un meuble ou des planches, il y a cet autocollant FSC. On va essayer d'expliquer à travers ce reportage tout ce qui se cache comme contrainte derrière. C'est un label très exigeant.
C'est un label effectivement très exigeant. Et ce qu'on peut regretter, c'est que malheureusement, les consommateurs qui achètent du bois FSC ne se rendent pas compte du niveau d'exigence effectivement qui est derrière et des efforts qui sont faits par les entreprises pour rester au niveau.
Alors toutes ces contraintes, j'imagine que Philippe Jean-Marc, qui est le directeur de la concession ici, va nous l'expliquer. Donc on va aller le rejoindre dans son bureau. Et voilà le bureau de Philippe Jean-Marc. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Donc vous êtes le directeur du site ici, de la concession. On le disait juste à l'instant avec Alain Carsanti, cette concession est certifiée, ça implique beaucoup d'obligations.
Oui, donc la certification, c'est une garantie que nos activités sont gérées de manière durable. Gérées de manière durable, ça implique des engagements au niveau non seulement de la forêt, mais aussi principalement au niveau environnemental et social. Notre certification nous impose aussi de respecter une traçabilité parfaite sur notre matière, c'est-à-dire sur le bois qu'on produit, depuis son abattage en forêt jusqu'à l'arrivée chez le client.
Et donc si un client en Europe, par exemple, achète une planche avec l'autocollant FSC dessus et demande d'où, enfin, la traçabilité permet de savoir vraiment l'endroit de l'arbre.
Donc la planche fait partie d'un colis. Moi, à partir de ce colis, je sais dire depuis quel morceau d'arbre ce colis a été fabriqué. Et je suis capable de non seulement retrouver la souche en forêt, mais de savoir qui l'a abattu, qui l'a transporté avec le bulldozer et puis qui l'a transporté par camion pour arriver jusqu'à l'usine. Oui.
Alors justement, sur la façon de travailler, il y a des rotations, vous prenez qu'une certaine quantité d'arbres par hectare.
C'est plus compliqué que ça, donc on a un massif assez important, ça fait 600 000 hectares. C'est des milieux assez hétérogènes, donc il faut d'abord en prendre connaissance. Pour en prendre connaissance, on doit réaliser des inventaires. On va pouvoir identifier des grands types de forêts dans lesquels on va pouvoir définir les essences qu'on pourrait exploiter, la rotation, le diamètre, etc. Alors la rotation ici a été définie à 25 ans, c'est-à-dire qu'on ne repasse pas sur un endroit de coupe avant 25 ans pour laisser le temps à la forêt de se régénérer et aux arbres de grandir et de permettre de retrouver un volume équivalent au deuxième passage. Grosso modo, il y a environ 600 espèces d'arbres au Gabon et sur ces 600, on inventorie 35 espèces et sur ces 35, actuellement, on exploite moins de 20. Pour le volet social extérieur, je vous invite à aller visiter la cellule qu'on appelle le bureau d'appui à l'environnement villageois et son responsable, M. Nsoka.
Bonjour.
Bonjour madame.
Alors c'est vous qui êtes responsable donc, de tous les programmes qui sont en lien avec l'appui des villageois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez à gérer?
On a à gérer principalement le social extérieur, c'est-à-dire par rapport à notre gestion durable, on doit prendre en compte les communautés qui sont dans notre CEFAD et en périphérie de notre CEFAD.
Alors CEFAD, ça veut dire?
Concession forestière sous aménagement durable. Nous avons des zones qu'on protège en faveur des populations villageoises. Et on appelle ça ici, chez nous, des céréales agricoles. Dans les céréales agricoles, on évite de gaspiller les cultures des populations, de gaspiller leurs points d'eau. Et par rapport à leurs pratiques de chasse aussi, on n'interdit pas la chasse, mais on les appuie en leur expliquant qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir des armes en règle pour pouvoir chasser.
Et dans la certification, il y a cette obligation de reverser une partie des bénéfices de l'entreprise pour le bien-être des villageois, justement. Alors, à quoi cet argent sert et quelle part représente-t-il?
Depuis 2001, le cumul que l'exploitation a fourni en redevance, on est autour de 1,7 milliard de francs CFA.
Et à quoi sert cet argent?
Aujourd'hui, principalement, cet argent n'a servi qu'à construire des maisons, à construire des dispensaires, à construire des cases d'écoute.
Écoutez RFI?
Oui, oui.
Merci beaucoup.
Je vous remercie également.
Alain Carsanti, là, on vient d'entendre tous les critères pour cette certification FSC, donc qui définissent en fait ce que c'est qu'une gestion durable de la forêt. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont labellisées?
Au niveau de l'Afrique centrale, on est à peu près entre 4,5 millions et 5 millions d'hectares. Il y a 6 ou 7 compagnies qui sont certifiées. Et effectivement, la CEB ici est une des compagnies qui a été une des premières à être certifiée. Et probablement qui est allée peut-être le plus loin dans le processus de certification. Et c'est vrai que ce sont des surfaces impressionnantes. Ici, 600 000 hectares, parfois 1 million d'hectares. Or, la différence avec un champ de palmiers à huile, par exemple, c'est que ça n'empêche pas les autres usages. L'exploitation forestière, dans la mesure où elle est bien organisée, elle est bien faite dans le respect des gens, dans le respect des lois, eh bien, on peut avoir une superposition, une coordination des usages sur un même territoire. Et on n'est pas obligé d'avoir une spécialisation et cette bataille pour savoir qui gagne, qui perd. Ce que gagnerait le paysan serait perdu par l'entreprise ou le contraire. Et donc là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant.
Anne-Cécile, si vous le souhaitez, je vais vous montrer comment on organise le travail sur le terrain, à la cartographie, pour que vous puissiez visualiser l'importance de ce travail préparatoire. Finalement, le travail d'exploitation en lui-même est la dernière phase de notre activité. La plus grosse partie, c'est la planification et essentiellement les inventaires et la cartographie.
Quand on parle d'exploitation forestière, souvent on s'inquiète un petit peu des dommages causés par les routes. Comment est-ce que vous gérez ce problème ?
Mais effectivement, là, pour pouvoir exploiter la ressource des massifs forestiers, il faut créer des routes. Et donc, c'est une source de déboisement important, d'où l'intérêt de les planifier au mieux. Alors nous, ici à la CEB, nous avons défini trois types de routes. Nous avons les axes lourds qui nous permettent d'évacuer le bois depuis les sites de production jusqu'à nos unités industrielles et vers les voies d'évacuation, en l'occurrence le chemin de fer. Ensuite, nous avons un deuxième type de route qui sont les routes secondaires qu'on doit pouvoir utiliser en saison des pluies. Ces routes-là sont déjà limitées en largeur, mais elles ont toujours une bande latérale de chaque côté de la route qui doit être déboisée afin que le soleil puisse accéder à la plateforme routière et la sécher. Et enfin, nous avons un troisième type de route qui sont les routes de saison sèche. On ne déboise absolument pas, on se faufile en forêt pour laisser passer les camions. Et donc, ce sont des pistes qui font 5 mètres de large. Donc, vous comprenez l'importance de planifier nos réseaux routiers parce qu'entre un axe lourd et une piste de saison sèche, on fait 5 fois moins de dégâts. D'où l'intérêt de planifier au mieux notre activité.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes dans le sud-est du Gabon, au cœur de la concession forestière de la CEB, la Compagnie Équatoriale des Bois, qui est un exemple de gestion durable. Nous sommes entourés d'arbres magnifiques, la forêt est dense, humide, et nous sommes en compagnie du directeur du site, Philippe Jeanmar, et de Alain Carsenti, chercheur économiste au CIRAD. Philippe Jeanmar, là ça y est, on est arrivé sur un chantier, expliquez-nous où nous sommes.
Alors on est le long de la route administrative qui relie Lastourville à Okonja, dans la zone d'influence du village Boutzoumba. Donc on va suivre la piste de débardage qui va être l'axe par lequel va sortir les bois qui ont été abattus.
Mais le chantier là pour l'instant est à l'arrêt parce que il n'a pas fait beau.
Vous voyez, on a du mal à marcher, donc si nous on a du mal à marcher, les engins qui sont beaucoup plus lourds que nous, qui pèsent 20 tonnes, ont aussi du mal à marcher. Et donc plutôt que de dégrader la forêt inutilement, on a arrêté le chantier pour préserver un minimum les pistes de débardage.
Alors justement, il y a un engin là devant nous, c'est quoi ?
C'est un bulldozer que nous utilisons pour l'exploitation.
Et alors on voit que finalement derrière l'engin qui est passé, bon, le sol est un petit peu tassé mais c'est pas dévasté.
Ça c'est l'intérêt d'organiser son exploitation. Donc nous avons deux types d'engins. Nous avons des engins à pneus qui ne sont là que pour circuler sur les débardages, donc qui est en gros la colonne vertébrale de la poche dans laquelle nous exploitons. Et puis des chenillards qui sont des bulldozers qui sont équipés d'arches de débardage pour lever la bille et donc ne pas la traîner et ne pas l'enterrer. Donc on n'a pas de sillon derrière le bulle. Et cette machine, étant sur chenille, va effectuer un très faible compactage sur le sol. Donc la couche de sol fertile n'est pas touchée et la végétation, au moment de son passage, est couchée, mais revient assez vite. Et donc si on revient dans 6 mois, l'endroit où est passé le bulldozer est très peu visible et va se refermer assez vite.
Alain Carsenti, est-ce que c'est répandu ce type de préoccupation dans le monde forestier ?
Oui, ça se répand. Hein. La certification systématise automatiquement ce genre de choses. Mais alors après, bien sûr, ça suppose un certain niveau de capital.
Oui, c'est-à-dire que c'est un niveau d'exigence qui n'est pas possible pour les petits exploitants, finalement.
Au départ, beaucoup de promoteurs de la certification pensaient que les petits exploitants artisanaux, les forêts communautaires seraient certifiés. Et en fait, on s'aperçoit qu'il s'est passé l'inverse. Donc voilà, là, il y a un compromis à trouver entre le côté démocratisation de l'exploitation sociale, mais avec donc les problèmes que ça peut poser de sous-équipement et de manque de formation du personnel, donc dégâts écologiques, et le côté grandes entreprises internationales, multinationales, qui auront le capital, la formation. Mais bien évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on peut imaginer d'avoir des entreprises étrangères en terre d'Afrique. Voilà.
Donc là, on va quitter la forêt pour retourner sur ce que vous appelez la base vie, là où il y a tous vos salariés, où vous vivez vous-même, et où il y a les industries de transformation. On va aller voir les scieries. Vous avez 2 scieries ?
Oui, tout à fait. Donc on a une scierie qui est principalement orientée vers l'okoumé. Donc l'okoumé est un bois tendre. Et une autre scierie dite de bois d'hiver. Donc ce sont toutes les autres essences qui sont plus denses, qui demandent d'autres techniques de sciage et donc un outil adapté.
Aujourd'hui, vous produisez quelle quantité de bois ?
Alors par an, en grume, donc sous forme de tronc, on exploite autour de 180 000 m3. Et en scierie, nous produisons entre 3000 et 3500 m3 de planches par mois.
Ça y est, nous sommes revenus au campement. C'est impressionnant, cette mini-ville construite au milieu de la forêt équatoriale. Et comme vous l'entendez, nous sommes près de l'une des deux scieries qui coupent les troncs en planches. Juste à côté, il y a les séchoirs et des tonnes de planches découpées et empaquetées sur des palettes prêtes pour l'exportation. Alors cette scierie incarne la volonté du gouvernement gabonais qui a instauré une loi en 2010 qui interdit l'exportation des grumes, des troncs donc, non transformés. Philippe Jean-Marc, que pensez-vous de cette loi ?
Il faut savoir que la loi, bien qu'elle ait été appliquée de manière radicale début 2010, cette loi a été formulée en 2001. En 2001, le nouveau code forestier a été rédigé et appliqué. Et dans ce code, il était prévu qu'à l'échéance 2011, les sociétés forestières exploitant la forêt gabonaise devaient transformer 75% de leur production dans le pays. Donc je pense que cette mesure a été brutale. Mais elle a surtout été brutale parce que personne n'a respecté la règle du jeu. Et ceux qui l'avaient respectée sortaient de 2 années de crise au niveau mondial.
La crise économique de 2008 qui a eu des conséquences pour la filière du bois parce qu'il y a eu moins de bois d'acheter.
Tout à fait. Le premier secteur touché dans cette crise économique, c'est le secteur du bâtiment. Et dans le bâtiment, même si on construit en béton, on a besoin d'énormément de bois. Et donc, nous avons été durement touchés. Et donc, à la sortie de 2009, beaucoup de sociétés auraient voulu se refaire une santé financière en exportant de l'agrumes. Ils n'ont pas pu. Et finalement, les entreprises modèles, parce que CEB est une entreprise qui a joué le jeu depuis le début, mais nous ne sommes pas les seuls, nous sommes quelques sociétés au Gabon, ont subi les conséquences de l'ensemble de la filière qui était la plupart des mauvais élèves. C'était très difficile parce qu'on avait des bilans négatifs, et donc les banques ont eu beaucoup de mal à nous suivre. On a dû financer sur des capitaux propres qu'on n'avait pas. Mais maintenant, nous sommes de nouveau en phase de succès, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire un bilan de l'industrie à l'échelle nationale et peut-être réorienter cette industrie, parce qu'aujourd'hui, elle est probablement peu adaptée à la ressource disponible.
Alain Carsenti, à l'échelle du Gabon, est-ce qu'on a déjà des chiffres pour savoir si ça a créé ou non des emplois, si le bilan économique est positif ?
Alors, ce qui est clair, c'est que la production s'est effondrée. Le Gabon produisait couramment 3,5 millions de mètres cubes de bois en forêt. Aujourd'hui, il n'en produit sans doute pas plus de 2 millions, entre 1,8 million et 2 millions. Les chiffres sont difficiles à obtenir. Grand espoir, c'était les emplois. Et les chiffres que j'ai pu avoir venant du ministère montrent que il n'y a pas eu de création nette d'emplois. Alors, le bois a des débouchés. Simplement, il faut savoir que chaque pays n'est pas dans la même position par rapport à son avantage comparatif en termes de transformation industrielle du bois. Le Gabon est probablement, pour des raisons de coût de main-d'œuvre, pour des raisons de manque d'infrastructures et pour des raisons de formation de la main-d'œuvre, était probablement un des pays qui a le moins d'avantages, disons, à une transformation intégrale. L'idée que le Gabon soit un pays totalement industriel serait peut-être une idée à reconsidérer, c'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir tout à fait de la place pour une industrie performante, créatrice d'emplois et créatrice de valeur ajoutée, mais que c'est peut-être une bonne politique économique de laisser une soupape d'exportation d'agrumes. Transformer, c'est pas toujours faire de la valeur ajoutée. Si on transforme de manière peu efficace, on détruit de la valeur, et ça c'est bien dommage.
Alain Carsenti, on a quitté la scierie et son bruit pour venir se promener ici dans le jardin botanique. C'est un jardin botanique qui a été un sentier en fait, qui a été aménagé par la concession forestière. C'est un endroit finalement qui pourrait attirer des tonnes de touristes parce qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la forêt équatoriale. C'est magnifique, on est vraiment entouré d'arbres gigantesques, des lianes extrêmement impressionnantes.
La forêt au fond, c'est à la fois un ensemble de ressources économiques. Le bois, les ressources génétiques, le bois énergie, les produits non ligneux. C'est également un ensemble de services qui sont des services, et ces services sont des natures de biens publics. C'est la biodiversité, c'est le stockage du carbone. Bon. Aujourd'hui, il y a des marchés pour les ressources, il n'y a pas de marché pour les services. Demain, on ne sait pas très bien, mais ce qui est certain, c'est que les services que rend la forêt tropicale, notamment la forêt du Gabon, qui est une des plus belles du monde, vont devenir de plus en plus rares à l'échelle mondiale. Et donc, de ce point de vue, ce bien public, il faudra le préserver, le financer. Donc on ne sait pas très bien exactement est-ce qu'il y aura demain des marchés, des services écosystémiques ou pas. Par contre, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que de plus en plus d'initiatives vont se développer pour préserver ce qui est notamment la forêt du Gabon et comme d'autres forêts qui sont véritablement un bijou et qui rendent des services inestimables à l'ensemble de la planète et d'abord au peuple gabonais lui-même.
Et pour bien préserver ces forêts, il faut connaître la biodiversité qui les compose. Justement, le premier inventaire de la flore africaine vient d'être réalisé. Nous en parlons avec nos invités juste après le flash d'info. À tout de suite.
internationale.